$100 à l'achat d'une deuxième paire. Lunetterie Bélan, service, qualité, bas prix.
En novembre, chez Pièces d'auto-économique, profitez de 25 % de rabais sur les essuie-glaces Rain-X. De plus, obtenez 15 % sur nos batteries de marque privée. De grandes marques, des pièces neuves garanties, 8 magasins et un site transactionnel. Pièceéconomique.com.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
Rage Against the Matin, ACV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le rock and chill, Boulevard du rock, il vole le ma planche.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Pour ce qui est de la météo pour ce soir, hey, ce matin, il faisait un genre de moins 13 avec le facteur relié. C'était pas chaud pour la pompe à l'eau, les amis. Ben, savez-vous quoi? Demain matin, ça va être un peu plus chaud. C'est ce qu'on nous mentionne, un genre de 8 degrés pour ce qui est de demain. Par contre, ce sera très pluvieux. Certains endroits, il y aura même de l'accumulation de neige. Là. On me dit que pour ce qui est de la région de Québec, ça devrait passer en neige, mais pour ce qui est de la réserve faunique des Laurentides, ce serait de la neige. Donc, excusez-moi. Donc, la pluie pour Québec et la réserve faunique des Laurentides, ce serait de la neige. On parle d'un 10 cm annoncé. Donc, si vous n'êtes pas encore chaussé avec vos pneus d'hiver, allez pas là ce soir et demain parce que ça risque d'être plus glissant qu'à l'habitude. En ce lundi, on a toujours le plaisir de rencontrer Maître Marc Bellemare, qui a un beau tan, là, d'après moi, je sais pas. Y a-tu été dans le sud dans les dernières heures? Qui sait, on lui demandera. Maître Bellemare, bonsoir.
Oh, ça va bien?
Ça va très bien. Vous avez passé une belle fin de semaine à New York?
Oui, je suis allé à New York. J'étais là de mercredi à dimanche. Et écoute, c'était pas évident. J'ai amené, moi, un bon chant. Avec un petit manteau, pas trop chaud, mais style printemps ou automne, là, mais je vais te dire que par bout, c'était assez froid, c'était assez frisqué, surtout que Montréal, c'est une ville, New York, c'est une ville qui se marche.
Ouais.
Alors, comme c'est une ville qui se marche, on est dehors souvent et longtemps, et à New York, le soleil, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gratte-ciel. Alors, dès que tu pognes 11h ou 1h l'après-midi, le soleil est déjà passé. À midi, ça va bien, mais en dehors de ça, c'est un petit peu froid. Fait que ouais. Pour être honnête, j'ai gelé un certain nombre d'heures en fin de semaine.
Moi, ce que j'adore,
mais quand même.
Ouais, ce que j'adore, Maître Bellemare à New York, c'est le multiculturalisme, c'est les restaurants. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez à New York. C'est le nombre de spectacles qui sont présentés là chaque jour de la semaine, chaque soir de fin de semaine. C'est le nombre de musées qu'il y a là-bas. C'est incroyable comme ville. T'sais, quand on est jeune, on grandit à Québec, on se dit, tu sais, Québec, c'est grand. Après ça, tout d'un coup, on arrive à Montréal. Oups, boy, t'sais, Montréal, c'est gros. Et quand on arrive dans une ville comme New York, on se dit, bon Dieu, qu'on est petit.
Oui, puis il y avait du monde en masse sur Broadway, Times Square. Il y avait du monde en masse. C'est toujours plein. Le quartier chinois, on se pile sur les pieds un peu. Et je suis allé voir de l'opéra mercredi passé au Met, qui était la plus grande salle d'opéra au monde. Une salle incroyable, 6 balcons, juste de l'opéra. Là. Nous autres, à Québec, le Grand Théâtre, c'est de l'opéra. Le lendemain, c'est Daniel Bélanger. Le surlendemain, c'est Hommage à Led Zeppelin. Après ça, c'est l'Orchestre symphonique. Alors, on sert de la salle du Grand Théâtre pour à peu près tous les styles de spectacle. Mais à New York, tu as un opéra, le Metropolitan Opera, qui est une salle d'opéra unique au monde où on parle plein de langues. Puis sur les traductions, parce que l'opéra c'était la bohème de Puccini en italien, mais il y a une traduction en trois langues. Et les traductions, c'est pas en haut de la scène, mais c'est derrière le banc de la personne devant toi.
OK.
Et c'est juste toi qui vois les traductions, puis c'est en allemand, en italien, puis en anglais, et non en français, malheureusement. Alors, le français perd du terrain considérablement, puis C'en est un bel exemple. Et puis, hier, c'était le marathon de New York. Il y avait 50 000 inscrits. C'est pas une petite affaire, là.
Ouais.
Et les rues étaient bloquées un peu partout. Ça a commencé le matin. Il faisait très beau hier et on a eu, ça a atteint un maximum de 14 degrés sur l'heure du midi, ce qui est quand même pas pire.
La sécurité
quand je suis arrivé...
Ouais, la sécurité devait être omniprésente là, pour ce qui est du marathon.
Oui, elle était pas mal présente, surtout que au sud de Central Park, là, il y avait un attroupement de juifs là, avec des drapeaux d'Israël qui se faisaient aller. Il était à peu près 300. Oui, il y avait de la présence policière, c'est certain, parce qu'il y a toujours un risque que ça s'échauffe un petit peu.
Mais on se souvient tous du marathon.
Avec le président Biden.
Ouais. On se souvient tous.
Le président
tous.
Biden qui donne son appui inconditionnel à Israël. Ouais. C'est sûr que ça fait des mécontents dans certains milieux, surtout quand on voit les Palestiniens se faire tirer dessus à tour de bras. Fait que c'est un dossier explosif. C'est une situation explosive et la position du président américain fait des heureux, mais fait aussi des malheureux. Alors, c'est sûr que tu as toujours ça dans la tête quand tu te promènes dans une ville comme New York où tu as beaucoup d'islamistes, tu as beaucoup de juifs qui vivent sur la même île. Mais à un moment donné, on ne sait jamais s'il peut arriver quelque chose. Puis moi, je vais te dire une affaire. Là, le mercredi dernier, quand j'ai pris mon vol pour New York, j'avais ça dans ma tête. Je me disais, il va-tu arriver quelque chose?
Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est rien passé, mais moi, j'ai vu les documentaires sur le marathon de Boston, là, quand il est arrivé, les attentats terroristes à Boston, puis la chasse, la poursuite policière par la suite, puis les Américains, contrairement à peut-être le Québec, là, on apprend énormément des erreurs quand il arrive quelque chose aux États-Unis, puis... probablement que hier à New York, il y avait des effectifs policiers, autant en civil qu'en présentiel. Présentiel pour montrer qu'ils étaient présents, mais en civil pour être sûr et certain que plus jamais ça arrive, ce type d'attentat-là, comme il est arrivé à Boston. Mais cela dit, New York est une ville incroyable à visiter. Puis à chaque fois que je vais là, j'ai peut-être été une dizaine de fois, chaque fois on a des choses à découvrir.
Là. Tout le temps. C'est toujours une ville magnifique, comme tu dis, plein de spectacles et tout ça. Mais c'est sûr que moi, en y allant au début novembre, je ne suis pas allé en décembre, parce qu'en décembre, tu as les au Radio City Hall, tu as les fameuses roquettes, là, les filles, le spectacle du Père Noël. C'est une salle de 6000 places, hein. C'est immense. Et, mais ça a commencé le 17 novembre, mais c'est sûr que New York, en décembre, c'est une ville extraordinaire à cause. C'est le gros sapin au Rockefeller Plaza, parce qu'il fait clair, actuellement, il fait clair à peu près jusqu'à 7 heures encore. Mais là, ça a changé d'heure, évidemment, en fin de semaine. Mais jusqu'à 7 heures, en fin de semaine dernière, il faisait assez clair. Mais là, ça va commencer à descendre. Puis eux autres, ils vont perdre une heure comme tout le monde. Et puis, on va se retrouver avec une noirceur relative à partir de 5 heures. Puis là, c'est magnifique le soir. Mais en même temps, décembre, tu sais qu'à New York, tu dois t'habiller en hiver parce que c'est l'hiver. Et même s'il n'y a pas de neige nécessairement au sol, il fait froid, ça prend une bonne paire de gants, un bon chapeau, puis un bon manteau d'hiver parce que, écoute, c'est pas compliqué à se souvenir, les 6 premières équipes de la Ligue nationale de hockey, c'était quoi? C'était Boston, New York, Chicago, Détroit aux États-Unis, ouais. Toronto, Montréal au Canada. Toutes les villes qui avaient des équipes de hockey, les Blackhawks de Chicago en 1933, là, ils jouaient pas dans une glace artificielle, ils jouaient dehors. Ça veut dire qu'à Chicago, il y a un hiver suffisant pour que pendant 3-4 mois, on puisse avoir une glace extérieure, naturelle, de bonne qualité pour tenir des matchs de hockey.
Ouais.
Alors, on a juste à se souvenir de ça. Fait que si à New York, il y avait les Rangers en 1935, ça veut dire qu'il y avait une patinoire avec un bonhomme qui arrosait ça, puis ça se passait dans un stade semi-couvert, dans un espace extérieur. Et ça veut dire qu'il fait fret dans ces villes-là aussi, pas juste à Québec.
Content que vous ayez passé un beau voyage à New York, Maître Bellemare. On va faire un petit dossier municipal. C'est rare qu'on ait la chance de parler de politique municipale. Du temps où vous avez été en politique, est-ce que vous, les sondages, ou encore votre parti politique, vous étiez très attentif aux sondages? Parce que celui du maire Bruno Marchand qui est sorti aujourd'hui, on parle d'un sondage léger, le Journal de Québec, où on mentionne que le maire, que les gens qui souhaitent que le maire demeure en place, c'est 30 %, donc 29 % précisément. C'est catastrophique pour le maire. T'sais. Comment on est en tant que politicien tu sais, quand on reçoit ce genre de sondage-là, puis on se fait dire par la population, votre travail, on le considère pas, puis on considère que vous devriez quitter. C'est injuste, parfois, la politique, ben, pour les personnes qui le vivent. Là. Pour nous autres, il y en a qui vont être d'accord ou contre avec ce sondage-là, mais 30 % des gens seulement qui veulent le retour du maire Marchand dans 2 ans, c'est très, très bas là, pour lui, là.
Ben c'est sûr. Puis tu sais, mais les politiciens ont beau dire que les sondages, ils s'en occupent pas, hein, parce que la plupart vont dire ah non, le premier véritable sondage et le seul véritable sondage qui compte, c'est les élections. Puis c'est un peu vrai évidemment parce que tout en politique, une journée, une semaine peut paraître une éternité. Mais moi, je pense que ça va dépendre de qui va être candidat contre le maire Marchand. C'est beaucoup ça. Même si tu as une popularité réduite. Parce qu'il y a des dossiers qui cheminent pas très bien, comme le tramway, par exemple, actuellement. Et bon, les maisons pour les sans-abri, là, où le maire Marchand, à mon avis, n'a pas été très, très convaincant. Il n'a pas été très, très ouvert.
Ouais.
Il veut s'occuper des sans-abri, mais en même temps, les organismes qui s'occupent des sans-abri n'ont pas eu droit à toute l'écoute auquel il aurait pu avoir droit. Ça va pas très bien, je dirais, là, depuis 3-4 mois avec le maire Marchand. Puis, ses voyages à l'étranger, ça a déplu à beaucoup de monde aussi. Aller voir le tramway en Scandinavie, si ça fonctionne bien, c'est pas nécessairement convaincant pour Québec. Les gens veulent avoir un maire présent sur place pour essayer de les convaincre du bien fondé de ses projets.
Alors qu'on, on a deux tramways en Ontario, là.
Non, je comprends. Mais ça va pas très bien pour lui, je sais pas. Mais ça va dépendre de est-ce que M. Villeneuve, qui est chef d'opposition, va être candidat.
Mais j'en
je trouve que que c'est un gars qui a un certain bon sens.
Ouais,
il est assez articulé.
Villeneuve va être candidat aux prochaines élections. À savoir s'il va être candidat comme chef, moi, je pense que oui. Actuellement, lui ne le mentionne pas. Mais connaissez-vous la différence entre le parti de Claude Villeneuve et le parti de Bruno Marchand? C'est le même parti, là. Ils ont les mêmes idées et actuellement, il n'y a aucune opposition. Souvent, quand on va voir Claude Villeneuve par rapport au dossier du tramway, il va dire que le maire Marchand a erré, mais dans la plupart des cas, il est d'accord avec tout ce que le maire Marchand met en place. Puis l'inverse est aussi vrai. Même affaire, tu sais, on sait. Claude Villeneuve, à son retour de vacances, là, il m'aimera pas là, que je rappelle ça, mais il l'a dit en ondes, donc je peux le rappeler. À son retour de vacances avec moi dans Marceau le midi, il m'a dit « Ben oui, j'ai été dans ma famille au Saguenay, puis les gens pensent que mon boss, c'est Bruno Marchand. » Même les gens de sa propre famille ne savent pas que Claude Villeneuve, c'est le chef de l'opposition à Québec. C'est pour vous dire à quel point ces deux partis-là se ressemblent beaucoup, ont les mêmes idées. Faut juste rappeler que Claude Villeneuve, c'est lui qui remplace Régis Labeaume. Là. On a tendance à l'oublier, mais c'est lui le chef du parti de Régis Labeaume parce que l'autre est parti. Elle a malheureusement perdu pour elle. Là. Puis elle a été considérée comme gagnante. Après ça, on lui a dit non, finalement, c'est pas toi qui gagne. Mais l'autre opposition, c'est Patrick Paquette. Là. Patrick Paquette qui, lui, veut prendre la place de la première opposition. Mais eux ont des idées complètement différentes là, de Claude Villeneuve et de Bruno Marchand. Fait que je sais pas vers quoi les citoyens de Québec vont se diriger. Moi, je pense qu'il y a un Sam Ahmad qui commence à tester ses appuis. Je sais qu'il a approché...
Ça fait longtemps qu'on en parle de Sam Ahmad,
ouais.
Mais...
Il a approché deux partis. Monsieur Ahmad a approché deux partis. À savoir s'il y a vraiment du sérieux dans ça, je sais pas. Mais aux dernières nouvelles, il aurait parlé avec un parti il y a peut-être 4 semaines, 4 à 5 semaines.
Ouais, peut-être. Mais ça fait longtemps que Sam Ahmad, on en parle à peu près à tous les niveaux de gouvernement. À chaque élection, ça revient parce qu'on n'a pas l'impression que cet individu-là a mis de côté toute velléité au plan politique, même que à chaque fois, il répond qu'il pense à ça, puis que c'est pas sûr, mais il dit jamais non de façon très catégorique, à moins qu'on lui pose la question pendant 5-6 semaines. Mais s'il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui montre que le maire Marchand est vraiment en difficulté, au municipal, ça peut changer assez vite. Ça prend quelqu'un qui est capable de rassurer la population. Moi, j'avais été en 2003, quand j'avais été candidat, j'avais des bons sondages jusqu'à mi-septembre. À mi-septembre, il y a une dame qui s'appelle André Boucher qui a décidé de se présenter comme candidate. Alors, mes appuis ont fondu comme neige au soleil parce que Mme Boucher était une femme qui inspirait confiance. Une grand-mère qui compte ses scènes, c'est bien important. Puis ça montrait une certaine confiance. Ça amenait une certaine confiance au sein de la population. Et puis, même si Mme Boucher avait été contre les fusions municipales qui avaient abouti à la Ville de Québec telle qu'on la connaît maintenant, que le maire Lallier avait présentée, elle s'est présentée comme mairesse d'une ville dont elle avait contesté la création en s'opposant aux fusions municipales, même qu'elle avait été à la tête d'un parti qui était contre les fusions municipales, mais elle a quand même été élue. Alors, tu sais, au municipal, c'est un espèce de petit régime présidentiel microscopique. Hein, aux États-Unis, tu as un président, puis tu as une assemblée législative. En France, tu as un président, tu as des élus aussi, dans chaque comté, dans chaque district, dans chaque préfecture. Alors, au municipal, c'est un petit peu ça. Tu as des conseillers municipaux, puis tu as un maire. On vote deux fois au municipal. On vote pour un conseiller municipal, puis on vote pour un maire qui est un peu une espèce de petit président. Alors, si tu as quelqu'un qui est talentueux, un bon communicateur, tu me dis Villeneuve, il y a le même programme que Marchand. Ça ne veut pas dire que les gens ne voteraient pas pour Villeneuve plutôt que pour Marchand. Même si le programme est sensiblement le même, la personnalité du maire est importante. M. Marchand, là, depuis six mois, il a été beaucoup en voyage. Il s'est pogné avec bien du monde. Il s'est pogné avec la CAQ sur le dossier de l'itinérance. Ça n'a peut-être pas plu à M. Legault. Ça n'a peut-être pas plu à Mme Guilbeault. Puis ça a inuit dans d'autres dossiers, comme le tramway, le financement des déficits du transport en commun, ces choses-là. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça puis qui vont voir dans M. Villeneuve, qui est un gars plus convivial, gentil avec tout le monde, qui a l'air toujours de bonne humeur, une alternative au niveau de la personnalité, je ne sais pas. Mais ce n'est pas nécessairement une question de parti. La plupart des électeurs connaissent très peu les programmes électoraux. Ils connaissent surtout la face de la personne qui veut prendre la place du maire. C'est ça, c'est important. Bien plus que les programmes électoraux. Les programmes électoraux, on va chercher des couches un peu plus informées comme toi, qui est journaliste, ça, tu sais, qui est au courant de l'actualité politique. On suit ça, nous autres, mais ça ne veut pas dire que le commun des mortels est si intéressé. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est un maire qui a du bagou, qui va se carrer, qui va être connu, qui va apporter une certaine fierté à notre ville.
Oui, mais en même temps, je regarde les gens qui sont pressentis là, actuellement pour prendre la place à la mairie de Québec, puis je vois rien de la trempe d'un Régis Labeaume ou encore d'une mairesse Boucher, des gens qui, vous m'excuserez l'expression, mais habitent leurs testicules et défendent corps et âme la ville de Québec. Moi, j'étais pas nécessairement pro Labeaume, là. Vous comprendrez que le métier que je faisais, nécessairement, j'étais tout le temps dans l'opposition et où je devais dire que Régis Labeaume avait fait un bon truc quand je jugeais qu'il avait fait quelque chose de bien, mais il y avait quelque chose qui était en place à Québec quand Régis Labeaume était là ou quand la mairesse Boucher était là, c'est que si vous vous attaquez à Québec, vous allez avoir des problèmes avec le maire qui est en place. Là, actuellement, tu sais, je regarde Bruno Marchand, le provincial ne semble pas avoir très peur de Bruno Marchand. Je regarde Claude Villeneuve, c'est la même chose. Puis les autres, dans l'autre partie d'opposition, Patrick Paquette, je pense pas que ça fasse ben peur à François Legault. Mais bien qu'il y avait des défauts, le maire Labeaume, c'est un ardent défenseur de la ville de Québec, tout comme la mairesse Boucher, là. Puis sa mamade, on parlait de sa mamade, ben, c'était quelqu'un qui défendait corps et âme aussi la ville de Québec. Vous aviez la même affaire avec Agnès Malté, on en avait parlé l'autre jour, t'sais. C'est des gens qui habitent leurs testicules puis qui disent attendez un peu là. Oui, le parti, mais notre ville va passer d'abord et avant tout. Notre région va passer d'abord et avant tout. Et actuellement, il n'y a rien qui fait peur au parti provincial ou au parti fédéral à la mairie de Québec. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, Maître Bellemare. Cela dit en passant.
Il y a aussi, Yannick, si tu me permets d'ajouter quelque chose, c'est que là, souvent, c'est des anciens élus du fédéral ou du provincial qui vont se présenter. C'est pas le cas du maire Marchand, c'était pas le cas de M. Labeaume, mais Sam Hamad, c'en est un. C'est un gars qui a roulé sa bosse avec le Parti libéral. Là, ça va pas très bien à la CAQ. Ils ont des sondages très négatifs, surtout dans la région de Québec. Je dirais même que c'est plus que négatif quand tu dis que Geneviève Guilbeault serait battue demain matin s'il y avait une élection. Alors, un gars comme Sylvain Lévesque, par exemple, quand Chauveau pourrait penser à se présenter, il y a beaucoup de députés de la CAQ actuellement, ou des anciens, on parlait d'Agnès Maltais qui est une ancienne du PQ. Alors ça aussi, ça peut bouger. Si à un moment donné, la CAQ ne réussit pas à se relever, il peut y avoir des députés de la CAQ ou des anciens candidats battus qui décident de se présenter à la mairie de Québec parce qu'ils ont quand même une certaine notoriété. Puis Dieu sait qu'en politique, la notoriété, c'est la première condition. Si tu es connu de la population, tu as des chances d'être élu beaucoup plus que si tu n'es pas connu. Mais Marchand, il n'était pas beaucoup. Il y avait 1% d'avantage au moment où il s'est présenté, il a fait une excellente campagne, mais c'était tous des candidats qui étaient des nouveaux. Alors, mais si tu as un déficit de notoriété qui est important, puis tu arrives avec, il y a déjà 20 % de la population qui te connaît, ça peut t'aider. Donc, à surveiller des éventuels et anciens candidats ou députés de la région de Québec qui pourraient se pointer d'ici l'élection qui aura lieu, je crois bien, en 2025, c'est bien ça?
Dans 2 ans, oui. Dans 2 ans. Maître Bellemare, comme premier dossier de la soirée, je voulais vous parler d'un article que j'ai vu passer dans Le Devoir. Je pense que je vous l'ai envoyé vendredi ou samedi passé lorsque vous étiez à New York. Mais on parle des peines obligatoires de prison pour l'heure d'enfant sur Internet. On a décidé que ça en était fini, des peines obligatoires de prison pour l'heure d'enfant sur Internet. Je trouve que c'est une décision qui est complètement hallucinante. C'est la Cour suprême du Canada qui a déclaré que les peines étaient inconstitutionnelles dans 2 jugements qui ont été rendus vendredi dernier. Quand même, le plus haut tribunal du pays, c'est des peines minimales qui exigeaient qu'on juge disproportionnées. Donc, on parle d'un individu qui tentait d'hameçonner des jeunes enfants sur Internet. Avant, c'était prison obligatoire. Maintenant, on dit, ben écoutez, prison obligatoire, c'est inconstitutionnel, donc c'est terminé. Il n'y en aura plus de peine de prison obligatoire. Est-ce qu'on protège bien nos enfants au Canada, Maître Bellemare?
Oui, mais c'est la Cour suprême n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de peine de prison. Elle a dit que c'était au tribunal de première instance, donc la Cour du Québec, essentiellement pour le Québec, qui entend ce type de cause-là. Division criminelle a décidé s'il y aurait nécessairement une peine de prison automatique ou s'il ne pourrait pas y avoir d'autres types de peines. Alors, c'est sûr que la peine minimale qui était fixée dans le cas de l'heure d'enfant, dépendant du mode d'accusation, c'était ou bien 6 mois de prison ou bien 12 mois de prison. Moi, je suis bien content parce que les peines minimales, je suis d'accord avec ça, parce que je me dis que si le gouvernement du Canada, la Chambre des communes, majoritairement décide que les leurres d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle constituent un crime qui justifie la prison automatiquement, bien, le Parlement s'est prononcé. Mais on sait qu'il y a une charte fédérale et qu'en vertu de l'article 12 de la charte fédérale, il ne faut pas que la peine imposée par le Code criminel soit un traitement cruel et inusité. C'est aussi l'article 12 de la charte dont je viens de parler, contre les traitements cruels et inusités qui avaient permis à monsieur le tueur de la mosquée, là, Bissonnette, d'obtenir 25 ans maximum. Parce que le juge Huot de la Cour supérieure avait dit 40 ans et la Cour suprême a dit non, 40 ans, c'est une peine cruelle et inusitée parce que ça empêche l'individu de recouvrir une vie normale ou un semblant de vie normale après 25 ans de pénitencier. Alors, cet article-là est toujours un article qui guette le gouvernement du Canada quand il adopte des mesures comme les peines minimales parce que la Cour suprême ou la Cour d'appel peut décider que c'est une peine qui est contraire à l'article 12 parce que c'est des traitements cruels et inusités. Fait que ce que la Cour suprême a dit ici, c'est que d'imposer la prison obligatoire à tous les cas de l'heure d'enfant, ça constitue un traitement cruel et inusité. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais moi, je suis un observateur, je suis un avocat, j'observe la scène judiciaire.
Ouais.
Puis j'aurais bien voulu que la couronne gagne sa cause et que cet article-là soit maintenu, puis qu'on sache qu'au Canada, si tu te rends coupable de l'heure d'enfant sur Internet dans des fins d'exploitation sexuelle ou de contact sexuel ou d'infraction de nature sexuelle, tu vas pogner au moins 6 mois. Moi, je vis très bien dans une société où c'est le cas.
Mais comme il y avait...
La Cour suprême m'a dit, il y a peut-être des cas où c'est pas nécessaire. Il y a peut-être des cas où c'est un petit leurre, où il y a des circonstances qui peuvent peut-être l'expliquer, que c'est un individu sans antécédent, ça peut être un accident de la vie. Puis un juge pourrait dire, bien, il n'y aura pas de prison obligatoire pour monsieur un tel dans un contexte très précis. À cause de ça, l'article du Code criminel est complètement annulé.
Ouais, je n'étais pas au courant que l'heure d'enfant, c'était une infraction qui était mixte dans le droit criminel. Donc, la couronne peut poursuivre l'accusé soit de 2 façons. Là, procédure sommaire, ça, c'est lorsque l'infraction est jugée moins grave, ou encore en accusation criminelle pour les infractions plus graves. Puis, dans les cas de la procédure sommaire, c'était 6 mois de prison obligatoire, ouais. Puis dans l'autre cas, donc au criminel, c'était 12 mois.
Ouais.
12 mois obligatoires.
C'est pour ça que je te dis que Moi, je vis très bien dans une société où on a un minimum de 6 mois de prison.
Ben oui.
Quelqu'un qui est reconnu coupable de leurre d'enfant à des fins d'exploitation sexuelle, que ce soit 6 mois de prison, on va le mettre. Puis on sait très bien qu'une fois qu'il prend 6 mois de prison, ils ne font pas toujours 6 mois de prison. Ça dépend de tout ce qui se passe en prison. Ça dépend des conditions de détention. Ça dépend du directeur de la prison. Ça dépend de la conduite de l'individu. Ça peut changer. Mais qu'on ait automatiquement et nécessairement de la prison dans un cas comme ça me paraît tout à fait correct. Mais la Cour suprême dit, le juge a pleine latitude. Au fond, la peine minimale, là, Yannick, là, ça vient imposer au juge un minimum. Il n'y a pas le choix que d'aller au moins à 6 mois, peu importe le mode de mise en accusation. Alors, c'est une peine minimale. Et les tribunaux sont souvent allergiques aux peines minimales parce que ça vient restreindre la capacité du juge d'imposer la peine qui lui semble la plus appropriée. Fait que la Cour suprême, en annulant 6 mois minimal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des juges qui peuvent donner beaucoup plus que 6 mois. Des juges peuvent donner 5 ans, 3 ans, 2 ans, mais il n'y aura pas de minimum à 6 mois. Mais le message est quand même lancé que 6 mois, ce n'est pas nécessairement inapproprié, mais dans certains cas, ça peut sembler exagéré, puis il y a peut-être d'autres modes punitifs que la prison minimale pour 6 mois. C'est ce que la Cour suprême a dit. Mais la Cour suprême a fait ça dans quantité de cas. Bissonnette, je te disais tantôt, on en a parlé en ondes à quelques reprises. Bissonnette, qui a tué 6 personnes, il y a normalement, avec la disposition du code criminel qui permettait d'additionner les 25 ans, 6 fois 25, ça fait 150 ans. Il aurait pu atteindre jusqu'à 150 ans. La Cour suprême dit non, ça ne sera pas plus que 25. C'est des peines concurrentes. Puis ça va être un maximum de 25 ans parce qu'au-delà de 25 ans, ça devient cruel et inusité. Encore là, on est au Canada. Il faut comprendre que la jurisprudence au Canada, la Cour suprême, la façon dont nous, on gère comme pays la criminalité, même la grosse criminalité de haut niveau comme des meurtres, ben c'est comme ça. Alors, aux États-Unis, il y a des peines de 350 ans, mais au Canada, même si tu tues délibérément 6 personnes puis que tu essaies d'en tuer 6 autres, parce qu'il y avait dans le cas de Bissonnette 6 meurtres, mais 6 tentatives de meurtre aussi, où il n'a pas réussi à tuer, puis il a même dit dans son témoignage qu'il aurait voulu en tuer plus. Alors, mais c'est 25 ans, mais il y a bien des pays dans le monde où c'est plus que ça, mais nous autres, on plafonne à 25 ans suite au jugement de la Cour suprême. C'est toujours en fonction de cette même disposition-là qui permet à la Cour suprême, dans beaucoup de dossiers, d'enlever un niveau de sévérité, si tu veux, au niveau des peines. Mais pour des avocats comme moi qui sont plutôt tough on crime, comme on dit, puis qui sont plutôt punitifs que
Oui.
non, ben c'est sûr que moi je défendrais le point de vue contraire, mais manifestement, la Cour suprême a donné raison à
Parce que ça
l'écuge.
peut être dissuasif, là, les peines minimales. Souvenez-vous, dans le temps de la guerre des motards, on avait mis en place une peine minimale pour ceux qui portaient les crestes des motards, que ce soit pour les Rock Machines ou encore pour les Hells Angels en public. Donc, si en public vous faisiez prendre avec ce morceau de vêtement-là, il y avait une peine minimale qui était prévue d'avance, ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, les motards ont cessé de s'afficher. T'sais, il y avait quand même leur crest, mais ils mettaient quelque chose par-dessus pour pas que la police puisse les arrêter pour cette raison-là. Donc, ça les avait dissuadés de se montrer comme ça en public. Mais c'est très, très particulier. Puis, en même temps, si les conservateurs reviennent au pouvoir, parce que Stephen Harper avait durci les sentences pour les salauds, et Justin Trudeau était revenu, puis il avait dit, ben, savez-vous quoi, nous autres, on trouve que c'est un peu trop cruel, puis il avait enlevé ce que les conservateurs avaient mis en place. Si Pierre Poilievre reprend le pouvoir, est-ce qu'on peut espérer qu'on soit peut-être un peu plus tough on crime?
Oui, c'est possible. D'ailleurs, il l'a déjà mentionné, il y a une lettre de Pierre Paulus, qui est le lieutenant de M. Poilievre au Québec, qui est le député de Charlebourg, je pense, au fédéral, qui a écrit une lettre au lecteur pour dénoncer l'adoucissement des lois par Justin Trudeau, son gouvernement, qui effectivement adopte régulièrement des lois qui sont beaucoup moins sévères que celles qui avaient été avancées par M. Harper. Si on fait un petit historique, là, en 2006, la première fois que M. Harper a été élu, il a promis de resserrer les peines. Puis c'est en 2011, lors d'une nouvelle élection, de la dernière finalement, qu'il a décidé d'adopter le projet de loi C-10, qui est un projet de loi omnibus en droit criminel, qui visait à imposer un paquet de peines minimales dans un paquet de domaines. Et il avait dit à ce moment-là, Harper, si je suis élu, parmi mes 5 promesses phares, je vais adopter la loi C-10 dans les 100 jours de mon élection. Ce qui fut fait. On ne peut pas reprocher à Harper, on peut y reprocher certaines lois, mais on ne peut pas reprocher son sens du devoir parce que ce qu'il promet, il l'a réalisé, notamment ça. Mais par contre, ce n'est pas nécessaire. Trudeau a joué un rôle d'adoucisseur des peines minimales, c'est vrai, mais la Cour suprême aussi a joué un rôle d'adoucisseur parce que quand la Cour suprême décide d'abolir la peine obligatoire de 6 mois, la peine minimale de 6 mois pour les leurres d'enfants, sur Internet, c'est pas Trudeau qui fait ça, là. C'est la Cour suprême aussi. Alors, le problème maintenant avec la charte, c'est que même si le gouvernement fédéral décide d'adopter des mesures plus sévères au niveau punitif pour les crimes de nature sexuelle ou les crimes reliés à la drogue, si la Cour suprême vient à arracher cet article-là, on peut pas reprocher au gouvernement de pas avoir fait sa job. Ici, l'affaire Bissonnette, là, puis l'affaire dont on parle aujourd'hui sur les leurres d'enfants, c'est pas le gouvernement Trudeau qui a changé la loi. C'est la Cour suprême qui a décidé que cet article-là était trop sévère. Alors, une peine cruelle inusitée, c'est un terme, c'est une expression vague. La Cour suprême peut annuler bien des lois en autant que le cas est porté devant elle, ce qui n'est pas toujours le cas, tant que le cas n'est pas porté devant elle et qu'elle n'annule pas l'article du Code criminel, il est toujours en vigueur. Mais le jour où ça s'en va devant le plus haut tribunal du pays, ça peut être annulé. Donc, ce n'est pas juste les gouvernements qui jugent. Et Poilievre peut, pour des raisons électorales, dire « moi, je vais sévir ». C'est le propre du Parti conservateur depuis un siècle de proposer la loi et l'ordre, c'est conservateur, ce n'est pas les libéraux. Les libéraux, c'est plus la réadaptation, c'est un thème plus social qui vise à réhabiliter les gens, puis tout le monde est fin, tout le monde est gentil, puis ce n'est pas parce qu'il a tué sa mère que ce n'est pas un bon gars, puis etc. Ça, c'est connu. Les conservateurs sont plus à droite du côté des peines plus sévères. Mais c'est pas tout. Il faut aussi que la Cour suprême soit plus sévère. Et ça, c'est loin d'être garanti parce que les courants de jurisprudence de la Cour suprême depuis toujours au Canada ont toujours été de façon à favoriser plus la réadaptation que la sévérité au niveau des peines. Ça va rester nonobstant, peu importe les gouvernements qui vont passer. Mais pour répondre à ta question, oui, M. Poilievre loge du côté plus sévère du Code criminel. Et c'est certain que si les conservateurs sont élus, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des lois qui vont être plus dures sur la criminalité.
Et dans mon cas, moi, si ça arrive, vous allez me voir applaudir les décisions du gouvernement en
place.
Aussi.
Moi aussi.
Je vous parle d'un homme. Son nom, c'est Richard Cloutier. Lui, à l'été 2020, ça a malheureusement terminé là, dans sa relation. Donc, lui et sa conjointe se sont laissés. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Puis, il y avait une balade de char à faire avec son ex-conjointe pour essayer de renouer avec elle, parce qu'il était en chicane, vous comprendrez bien. Et à un moment donné, le gars se dit, pendant que sa conjointe lui confirme qu'elle ne reviendra pas avec lui, il est un peu fâché, il dit qu'il se sent utilisé, et prend 2 grandes respirations, donne un coup de volant et rentre directement, donc de plein fouet, dans le mur de béton. Heureusement, la conjointe ou son ex-conjointe est toujours en vie. Par contre, elle a eu un poignet fracturé là, sous la force de la collision et on parle de blessures aux vertèbres dans son cas. L'homme a été déclaré coupable et mérite 18 mois, selon un juge, là, donc mérite 18 mois pour avoir tenté de tuer son ex-conjointe. Je trouve que 18 mois, c'est pas très sévère là, pour tentative de meurtre. Là. J'imagine que c'est pas les raisons pour lesquelles... est-ce qu'ils ont mis voie de fait ou conduite dangereuse? Ou parce que là, c'est une tentative de meurtre qu'il a réalisée. Eux autres, ils ont vu ça comme un voie de fait, de ce que je comprends?
Oui, il a poigné 12 mois pour une conduite dangereuse causant des lésions et puis un autre 6 mois pour harcèlement.
Okay. Est-ce qu'il y a eu une négociation dans ce dossier-là, Maître Bellemare?
Parce que sûrement. Sûrement qu'il y a eu des négociations. En tout cas, les avocats se sont sûrement parlé, comme dans tous les cas, mais c'est le juge Thomas Jacques qui a rendu la décision. Et bon, écoutez, c'est sûr que moi, ce que je trouve, tous les crimes routiers, il y a une chose qui devrait toujours peser dans la balance, c'est le fait que ce gars-là ne sera jamais obligé de payer pour les dommages qu'il a causés à sa femme. S'il y avait une facture au bout de la ligne, parce que normalement, en droit civil, tu payes pour le dommage que tu as causé, tu peux être poursuivi au civil. Mettons que tu donnes un coup de poing à quelqu'un dans un bar, mais tu vas être jugé au criminel parce que c'est une infraction criminelle, tu vas peut-être aller en prison à cause de ça. Mais non seulement ça, mais tu risques d'être poursuivi au civil par ta victime, puis être obligé de payer les 25 000 piastres que ça a coûté pour le salaire perdu, puis les souffrances, les traitements. Mais en matière d'assurance automobile, au Québec, comme on sait, il y a le NOFAR qui empêche toute poursuite contre une personne qui a commis un acte criminel, une poursuite civile. Ça veut dire que, oui, il va y avoir des conséquences en termes criminels. Ce gars-là va certainement aller en prison pendant un certain temps, puis il a poigné 18 mois, mais il n'y a pas une scène à payer. Alors qu'on sait très bien que quand tu touches au portefeuille, ça fait mal souvent plus qu'une privation de liberté. Mais ici, on n'a pas le côté financier parce que le no-fault au Québec fait en sorte que la personne n'est pas poursuivie. Et non seulement elle n'est pas poursuivie, mais ce gars-là, s'il fait une dépression, là, parce que je peux te dire qu'il y en a qui sont des coupables de crimes routiers comme ça, négligence criminelle, causant des blessures corporelles, il y a des gens qui sont payés en dépression. Il y a un psychologue à l'intérieur des murs qui reçoit un chèque de la SAC pendant ce temps-là. Alors, l'agresseur ici, même s'il a délibérément causé l'accident, en accélérant et en causant cette forte collision que le juge appelle, la femme aurait eu un poignet fracturé sous la force de la collision, en plus de blessures aux vertèbres. Sa blessure au bras nécessitera d'ailleurs une opération, une trentaine de suivants physiothérapie. C'est quand même pas rien, là. Alors lui, ce gars-là, s'en va en prison, mais il n'y aura pas de maudite scène à payer, ni à la SAC, ni à sa femme, son ex-femme. Alors, c'est un bonus, là. Alors que normalement, tous les autres criminels qui causent des dommages corporels ou des atteintes à physique ou psychologique ont à payer aussi les conséquences financières de la blessure. Alors, les juges devraient en tenir compte, je pense, et dire, ben, finalement, tu n'auras pas à payer une scène, mais tu vas avoir à payer de ta liberté peut-être un petit peu plus, compte tenu du principe qu'on doit réparer globalement et intégralement les dommages qu'on cause dans la société.
Maître Bellemare, j'en reviens pas qu'on parle encore de ce monsieur-là dans l'actualité. Ça fait des années qu'on en jase, vous et moi. Mais que voulez-vous, il y a tout le temps du nouveau. L'ex-juge de Lille, Jacques Delisle, 88 ans, qui doit être jugé à nouveau pour le meurtre de son épouse à la suite d'un arrêt rendu en septembre dernier par la Cour d'appel. Là, je vois que l'avocat de l'ex-juge de Lille, qui est... c'est maître Jacques Larochelle, hein, de ce que je comprends.
Oui, c'est ça, oui.
Lui a mentionné que le juge ne devrait pas... L'ex-juge ne devrait pas repasser en cour parce qu'il y a une preuve essentielle là, qu'ils ne peuvent pas présenter. Donc, ça serait dû à la négligence inacceptable de l'État. Qu'est-ce qu'on doit en penser de cette histoire-là de l'ex-juge de Lille? T'sais, moi, je répète, là, si ce gars-là avait été concierge d'un établissement scolaire, ça ferait longtemps qu'il serait en tôle.
Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Écoute, ce qui est arrivé au fond dans le cas du juge de Lille, c'est bien sûr, on le sait, il a été condamné par un jury pour avoir commis un meurtre. Donc, l'assassinat de sa conjointe. Et il y a, malgré les condamnations, Cour supérieure, Cour d'appel,
ouais.
Refus d'entendre l'affaire en Cour suprême et 9 ans de pénitencier pour le meurtre prémédité de son épouse, Mme Rainville, le ministre fédéral de la Justice a décidé en avril 2021 qu'il y aurait un nouveau procès. Donc, tout ça ne comptait plus. Parce qu'il y a une disposition du Code criminel qui permet au ministre de la Justice, s'il pense qu'il y a eu une erreur judiciaire et que tout ce monde-là s'est trompé avant lui, il peut demander un nouveau procès. Alors, on s'est retrouvé devant une nouvelle accusation de meurtre prémédité, mais cette fois-ci, les avocats du juge Delisle, de l'ex-juge Delisle, ont dit, bien écoutez, il y a des morceaux de crâne qui sont disparus parce que quand Mme Rainville a été fait l'objet de l'autopsie, il y a des morceaux du crâne qui ont été prélevés et le pathologiste, donc le médecin, a fait un examen du crâne et a jeté des morceaux de cerveau, des morceaux d'os, etc., qui empêchent le juge Delisle de faire la preuve qu'il peut s'agir d'un suicide parce que semble-t-il que si la balle est rentrée à l'angle droit dans le crâne, cette trajectoire-là de la balle aurait pu prendre son origine dans un geste que Mme Rainville était capable de poser, donc tenir l'arme d'une certaine façon. Donc, ça pouvait être un suicide. Ça pouvait, je ne dis pas que c'est sûr, parce que les certitudes dans ce domaine-là, ça n'existe pas, mais ce n'est pas une certitude que ça prend pour être acquitté. C'est un doute raisonnable. Alors que si la balle est rentrée de biais, bien là, c'est nécessairement un assassinat. Alors, compte tenu qu'il manque des pièces, donc des morceaux d'humains, et que le pathologiste a détruit ces pièces-là, une pièce perdue avec la faute de l'État, finalement, qui est représentée par le DPCP, à ce moment-là, monsieur le juge de Lille dit, ben moi, j'ai pas droit à une peine, à une défense pleine et entière, il me manque des éléments, et moi, je vais te dire, si on se fie au plan purement juridique, si on se fie à la jurisprudence, les tendances au niveau de la Cour suprême, je pense que l'ex-juge de Lille a ici une bonne cause, je dirais même une très bonne cause. Et moi, je ne serais pas surpris que ça réussisse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour supérieure a dit cette faute-là de la part de l'État empêche l'ex-juge de Lille de faire valoir tous ses moyens, toutes les possibilités, même les plus minimes, de gagner sa cause. En conséquence, s'il n'y a pas droit à une défense pleine et entière, on annule les accusations et il est libéré. Pas acquitté, il est libéré. Parce qu'il y a une faute de l'État. La Cour d'appel a dit oui, il y a une faute de l'État, puis la Cour d'appel le répète partout dans son jugement. Mais malgré ça, l'ex-juge de Lille a quand même une possibilité raisonnable de se défendre. Puis à travers l'adresse au juré, le juge qui préside le procès va pouvoir expliquer tout ça au juré. Puis finalement, ça va quand même permettre au juge de se défendre raisonnablement. Moi, je trouve que c'est plus ou moins convaincant. J'ai été très surpris du jugement de la Cour d'appel. Je ne te dis pas que je suis d'accord sur le fond, là. J'étais très surpris du jugement de la Cour d'appel, mais je pense que les chances que Jacques Larochelle gagne ça à la Cour suprême sont très bonnes. Je ne serais pas surpris qu'il gagne. À mon avis, il y a plus de chances de gagner que de perdre, compte tenu de la façon dont la Cour suprême gère ce genre de dossier-là et de la façon dont la Cour suprême applique les principes de droit criminel, la présomption d'innocence, la liberté de présenter une preuve, de faire valoir tous ses moyens en matière de droit criminel, le doute raisonnable. Moi, je pense que ça favorise beaucoup l'ex-juge de Lille dans sa démarche. Et tout ça va prendre évidemment un certain temps. On parle de mois et même d'années. Alors, pendant ce temps-là, M. le juge de Lille vieillit toujours. Il est rendu quoi, à 87 ans?
88.
Et pendant tout ce temps-là, il est toujours présumé innocent parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement qui le condamne. Alors, parce que si, même si la Cour suprême dit la Cour d'appel avait raison, puis même s'il manque des boucs d'os, c'est pas grave, il peut quand même se défendre. Il faudrait quand même qu'il y ait un procès, instruire un procès, un nouveau juré. Et là, on parle encore d'années et le temps file. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, l'ex-juge de Lille est libre comme l'air, comme toi et moi.
Ouais, je ne veux pas vous reprendre, Maître Bellemare, là, mais il n'est pas innocent jusqu'à preuve du contraire. Il a été déclaré coupable, le juge de Lille.
Oui, mais ça ne compte plus, là, parce que là, il y a une nouvelle mise en accusation. Puis c'est cette nouvelle mise en accusation-là qui a été cassée par la Cour supérieure. C'est ça, il a été déclaré coupable, mais le ministre de la Justice a dit je pense qu'il y a une erreur judiciaire, donc j'annule tout ça et il va falloir qu'on le réaccuse et qu'on le recondamne.
Okay. Donc, la déclaration de culpabilité, excusez-moi, est partie à partir du moment où le ministre de la Justice a dit « faut refaire un procès ». Ah oui?
Le ministre de la Justice a dit « faut recommencer » et retourner ça au DPCP en disant « vous déciderez s'il est opportun de réaccuser ou de ne pas réaccuser ». Alors là, le DPCP a réaccusé. Et là, c'est là que le juge de Lille, faisant face à de nouvelles accusations de meurtre prémédité, a dit « Mais avant d'aller à procès, je veux quand même soulever une question préliminaire, à savoir qu'il manque des éléments importants au niveau de la pathologie qui m'empêchent de faire une preuve certaine ou la meilleure preuve possible de la trajectoire de la balle dans le crâne. » Et c'est comme ça que le juge Aymon de la Cour supérieure a dit « Bien, à cause de l'erreur de l'État qui prive... » l'ex-juge de Lille de pouvoir être osseux-là, je casse les accusations parce qu'il n'y a pas de justice. La Cour d'appel a renversé ça en disant oui, il y aura procès parce qu'il y a quand même de la justice néanmoins, même si la Cour d'appel blâme sévèrement l'État pour avoir perdu, puis le pathologiste pour avoir perdu ses, ces éléments pathologiques-là.
C'est quand même particulier de voir ça. C'est quand même particulier parce que les pathologistes, c'est des gens qui sont extrêmement méticuleux. Là. C'est pas un genre de Yannick.
Oui, mais là, il y a
un genre de Yannick Marceau, là, que son char est en bordel. Là. C'est vraiment des gens qui sont. Dans leur métier, ils doivent être absolument méticuleux tout le temps. Là. Moi, des fois, je l'échappe.
Ben oui, je comprends. Non, je comprends, mais tu sais, il a jeté des affaires. Alors là, il y a un problème parce que, tu sais, le problème, c'est que peut-être que le pathologiste a jeté ces affaires-là en se disant, ben, de toute façon, c'est une vieille affaire, il est condamné, c'est final. Mais qui aurait pensé que le ministre Lametti, le ministre libéral qui était là il y a quelques années, aurait cassé tous les verdicts en disant, ben non, il y a peut-être... moi, je pense qu'il y a eu une erreur judiciaire parce que j'ai pris connaissance d'un paquet d'expertises que le jury n'avait pas, etc., puis on recommence le processus. C'est peut-être pour ça que ça s'est perdu en cours de route. On ne sait pas trop qui a perdu quoi, puis de quelle façon ça a été jeté, mais c'est sûr qu'il manque des éléments. Et ces éléments-là qui auraient permis à la défense d'exploiter d'une certaine façon pour créer un doute dans la tête du jury n'existent plus. Et c'est sûr qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est des éléments dont l'ex-juge d'élite est privé dans la préparation de sa défense et qui pourrait réussir devant un certain jury. Fait que c'est pour ça que je te dis que dans le doute, ben on est, à mon avis, dans le domaine du doute raisonnable potentiel que le juge d'élite ne pourra pas soulever parce qu'il manque des éléments qui sont irrémédiablement disparus.
Ouais. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Si vous avez des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNSST, vous pouvez aller voir les coordonnées de Maître Marc Bellemare directement sur ce site web-là. On fait une très courte pause et on vient tout de suite.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
102.1
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Måneskin, honey, are you coming? Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Cette semaine, vous pourriez garantir vos places pour la tournée d'adieu des légendes du rock Kiss en concert à Québec cet automne. Kiss, le 19 novembre prochain au Centre Vidéotron. Restez à l'écoute pour gagner vos billets.
Boulevard 102.1, votre pocheur d'étiquettes.
Monsieur Legault, avec votre projet de loi 23, vous conduisez le système d'éducation dans la mauvaise direction. Vous vous inspirez de pays où les élèves performent moins bien qu'ici. En pleine pénurie de personnel, il faut plutôt répondre aux besoins pressants sur le terrain. Nous sommes nombreux à penser que le projet de loi 23 causera plus de problèmes en éducation qu'il n'apportera de solutions. Il faut travailler autrement. Vous vous êtes récemment engagé à être plus à l'écoute. Allez-vous tenir parole? Un message de la FSE et de la CSQ.
Vivez en toute quiétude. Car avec l'autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
Les études universitaires vous intéressent? Le samedi 11 novembre de 10h à 15h, découvrez votre programme d'études lors des portes ouvertes de l'Université Laval. Kiosques, conférences et visites guidées vous attendent. Tous les spécialistes sont réunis pour répondre à vos questions. Vous avez fait votre choix? Déposez votre demande d'admission sur place avec l'aide de nos responsables. Le samedi 11 novembre, vivez l'expérience campus de l'Université Laval et découvrez un milieu d'études et de vie passionnant. On vous attend. Détails sur ulaval.ca/porte-ouverte.
Voulez-vous économiser sur votre changement de pneus? Kennedy Pneus et Mécaniques vous offre une carte cadeau d'une valeur de 250 $ pour seulement 125 $ au mercado.fm. Kennedy Pneus et Mécaniques, à 15 minutes des ponts, ça vaut le déplacement.
Les pneus, ça nous connaît.
Salut Nissan.
Hey Karine.
Bon, j'ai des amis qui cherchent un VUS spacieux. Mm-hmm. Leurs deux enfants jouent au hockey, tu sais.
Oh, OK, beaucoup de route.
Beaucoup d'aréna aussi.
J'irai avec le Nissan Rogue S à traction intégrale avec volant chauffant et siège avant chauffant.
Ah, ça ils vont aimer ça parce que des bancs d'aréna c'est frette.
Oui, oui. Louez le Nissan Rogue S 2023 à traction intégrale à partir de 399 $ par mois pendant 24 mois et obtenez 750 $ de crédit sur des pneus d'hiver sur modèles sélectionnés.
Jusqu'au 30 novembre, à compte de 3325 $, valeur de 36 095 $. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent en stock maintenant. Détails chez Nissan.
Chaque jour, plus de 4 millions de Canadiens luttent contre l'arthrose. Mais pour Mathieu, chaque pas est devenu une victoire grâce à Génacol antidouleur. Ce produit naturel, cliniquement prouvé, soulage les douleurs articulaires en seulement 5 jours. Comme Mathieu, retrouvez le plaisir de bouger avec Génacol antidouleur, le supplément pour la santé articulaire le plus vendu au Canada.
Génacol antidouleur est en promotion chez Family Prix jusqu'au 8 novembre. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
102.1, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard 102.1.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Ce soir, on est avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Dossier de SAAC, DIVAC, de CNESST, sépare ce site web que ça passe. Monsieur Bellemare, avez-vous hâte à la neige qui s'en vient à grands pas? Ça sent bien
cette nuit, hein?
Oui, ben c'est ça. Si vous êtes dans les Laurentides, je ne sais pas où vous habitez exactement, si vous êtes dans les secteurs de la réserve faunique des Laurentides, c'est un genre de 10 cm annoncé pour cette nuit et demain. Puis sinon, à Québec, là, la majorité de ce qui va nous tomber sur la tête passerait en pluie.
Oui. Moi, en tout cas, j'ai fait changer mes pneus aujourd'hui.
Ah oui?
Mon Yann. Alors, moi, je suis correct maintenant. Je suis bien content. C'est tout juste parce que quand je l'ai appelé, ça a pris quasiment 4 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Maintenant, je l'ai eu et j'ai des pneus d'hiver. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas être prudent. Mais je suis prêt à faire face à toutes les conditions imaginables puisque je vis dans la ville une des villes les plus enneigées du monde. Alors, je prends ça très au sérieux.
Comme dernier dossier, Maître Bellemare, il nous reste à peu près 3-4 minutes. Là, une Québécoise de 59 ans qui a été condamnée à payer 2 amendes assez salées pour avoir refusé de porter le masque. C'est arrivé ça au terme d'un procès qui est devenu complètement chaotique en raison d'un faux chien guide qui accompagnait un groupe d'amis. Mais quelle histoire! Puis j'invite les auditeurs à aller voir cet article-là sur la page du Journal de Montréal. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, Maître Bellemare, on va se le dire. Hein.
Non, mais c'est ça. Mais on assiste à une espèce de, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, là, tu sais, le vouvoiement qu'on entend moins, les protocoles, les pratiques, tu sais, le sérieux, les tribunaux, les parlements. Bon, tu sais, moi, j'ai grandi dans un monde où il fallait dire « vous » aux personnes plus âgées, aux gens qu'on connaissait pas, puis tout ça. Mais devant un cours de justice, moi, je prépare toujours mes clients. Je leur dis là, tu vas t'habiller comme il faut. Des camisoles en cours, ça marche pas. Puis des tues, ça marche pas. Puis des crises de calice, ça marche pas non plus, même si t'es bien fâché. Et puis, faut toujours que tu sois très ostenté. Moi, je leur dis toujours, t'es comme au salon funéraire. Quand tu vas au salon funéraire, là, hein, t'as un visage neutre, un peu triste. T'écoutes bien les gens qui te parlent. Il n'y a pas d'excès. T'arrives pas le gorlot, t'as pas pris 3 bières avant, tu commences pas à crier après le monde, tu gardes la voix basse. Alors, intelligible, mais basse. Alors, c'est comme ça qu'il faut se comporter devant un tribunal. Puis quand je vois ça, là, la madame qui arrive, tu sais, elle est accusée d'avoir porté le masque alors qu'elle n'avait pas d'affaires. Fait qu'au départ, ça fait un petit peu, tu sais, ouais, porte pas le masque, elle est rentrée dans un commerce, puis... elle respectait pas la loi, puis ça fait un peu bravade, tu sais. Alors, puis là, la juge, elle est là, puis elle est d'accord avec les masques, tu sais, parce que les juges représentent l'autorité, les décrets, les lois, la pandémie, etc. Et la madame se présente avec un faux chien guide, avec une gang d'amis, puis ils se mettent à faire le party, puis à crier dans la salle de cour, tu sais. Fait que la juge a pogné un air, puis elle l'a accusé d'outrage au tribunal. Outrage au tribunal, ça veut dire que tu as un comportement outrageant, irrespectueux par rapport au tribunal. Et d'habitude, les juges sont quand même assez tolérants. Ils vont y aller. Ils vont dire, monsieur, pas le droit de... S'il vous plaît, quand vous adressez aux avocats, ici, c'est le vouvoiement. On ne mange pas de gomme. On n'arrive pas en bédaine. Puis, on n'est pas... tu sais, on est courtois. Puis, l'heure est grave. Puis, ce que vous allez dire, c'est très important. Alors, c'est sûr que ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas vivre, qui va être accusé d'outrage au tribunal. Mais pour tous les auditeurs qui nous entendent en ce moment, quand vous vous présentez en cours, même si vous avez une petite créance, là, habillez-vous donc comme il faut. Pas à quatre épingles, pas nécessairement d'avoir une cravate, mais habillez-vous comme il faut. Préparez votre témoignage, prenez quelques notes, rafraîchissez-vous la mémoire, puis soyez pertinent dans ce que vous allez dire. Vous voyez les gens et comportez-vous de façon civilisée, parce que c'est le juge qui va vous entendre, c'est le juge qui va décider. Fait que soyez donc un petit peu à son niveau.
Oui, mais c'est où est-ce qu'on l'a perdu, la politesse? Hein? Je me pose toujours ces questions-là, Maître Bellemare. Tu sais, aujourd'hui, je recevais une ex-militaire, je la vous voyais. Tu sais, quand je parle aux policiers, je les vous vois. Si jamais il me dit « vous pouvez me tutoyer », je peux le tutoyer. Même affaire pour ce qui est des avocats. Tu sais, un avocat comme Maître Marc Bellemare, je vous ai jamais tutoyé en quoi, 10 ans? 10-12 ans, certains.
Ah, c'est ça. Ben oui, mais c'est. On se parle, puis on est public, là.
Ben oui.
C'est comme les politiciens qui disent des fois, qui tutoient le journaliste qui est
question. Ou l'animateur.
C'est
ben
pas habile.
Ben non.
C'est pas habile, puis ça crée une espèce de rapprochement. Ça peut mettre le journaliste mal à l'aise. C'est pas habile parce que ça montre un certain rapprochement. Fait que là, l'auditeur se dit, coudonc, c'est chummy, tu sais. Le journaliste, ils sont en train de nous plugger son chum politicien pour nous convaincre qu'il a raison dans son projet de loi. Fait que c'est pas bon, ça crée pas une distance suffisante aux yeux de l'auditeur pour assurer la crédibilité des intervenants. Donc, il y a toute une histoire entourant ça, mais je pense que devant les cours de justice, il faut être poli et courtois,
oui,
et c'est comme ça qu'on convainc.
En même temps, message aux parents, puis je fais partie de la gang, c'est de montrer à nos enfants que c'est important d'être poli. Parfois, ça peut nous sauver bien du trouble. C'est important. Ça sauve des étiquettes, Maître Bellemare, quand on vous voit, les policiers. Ils sont tellement pas habitués qu'ils disent « Ah, j'ai affaire à quelqu'un de poli. » Fait qu'au lieu de, dire qu'il roulait à 135 sur l'autoroute, il roulait à 119.
Ouais, exactement.
Maître Bellemare, c'est toujours
un peu plaisir. Un peu sauver de l'argent.
Dossier de SAC, DIVAC, de CNSST, bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, puis on se rejase lundi prochain, de même qu'aux auditeurs.
Parfait. Bonne semaine.
Merci. Au revoir. Bye-bye.
Bye.
Marceau, le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour courir la chance de gagner votre laissez-passer pour le festival Oceaga du 2 au 4 août prochain au parc Jean-Drapeau.
Boulevard 102.1, votre pocheur d'étiquettes.
Qu'il s'agisse d'une tenue de route exceptionnelle, de performance ou de sécurité, conduisez en toute confiance avec le nouveau Mazda CX-90. Équipé de la traction intégrale iActive de Mazda, il détecte les conditions de la route pour une conduite plus réactive et plus confiante. Il a aussi été récompensé par l'IIHS, la référence en matière de sécurité. Optez pour le Mazda CX-90 hybride léger ou hybride rechargeable et profitez de la garantie à kilométrage illimité. Disponible chez votre concessionnaire Mazda dès maintenant.
Pour vos besoins chauffage et climatisation, faites appel au choix du consommateur numéro 1, EnviroConfort. Conversion de votre système au mazout, installation de votre thermopompe murale et centrale, géothermie, échangeur d'air et accumulateur de chaleur. Pour votre chauffage et climatisation, EnviroConfort.com.
Qu'est-ce qui est à petit prix et se conserve plus longtemps qu'une canne de sardines? Le forfait mobile 40 gigs à 40$ de fees. Un petit prix qui se conserve à l'infini. Offert à tous sur fizz.ca.
Certaines conditions s'appliquent. Détails sur fizz.ca.
Vous êtes tanné d'avoir froid l'hiver et d'écourter vos journées de ski? Découvrez Avalanche, la référence en vêtements d'hiver au Québec depuis 40 ans. Manteaux et pantalons abordables conçus pour nos hivers et des accessoires pour rester au chaud de la tête aux pieds. Rendez-vous chez Avalanche. Chaleur, confort et performance.
Boulevard 102, la radio de toutes. Tout le monde, tout le temps.
Quiz. Simple ou difficile? Acheter une première maison en 2023.
Difficile?
Monter un meuble IKEA avec son partenaire.
Impossible.
Devenir un programmeur web?
La
réponse, c'est très simple. Avec l'AEC en programmation, base de données et serveur de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy, devenir programmeur, programmeuse web n'a jamais été aussi accessible. Départ en janvier. Détails au vousbrillez.ca.
J'espère que j'aurai pas assemblé mon prix.
Vous cherchez à éveiller la curiosité de vos enfants? Libérez l'histoire au Moulin des Jésuites de Charlebourg dans le nouveau musée d'histoire pour enfants. Activités interactives, costumes et découvertes vous plongent dans un voyage captivant à travers le temps. Détails au moulindesjésuites.org.
Avant, quand on entendait parler d'itinérance, ça se passait juste dans les grandes villes. Mais j'aurais jamais pensé que chez nous, dans ma municipalité, on se mettrait à avoir de plus en plus d'itinérants. Puis qu'un de ceux-là, ça serait moi.
Avec les problèmes d'itinérance, de réchauffement climatique et de crise du logement, le rôle des municipalités est appelé à changer. Plus que jamais, le gouvernement municipal en est un de proximité. Sa mission? Être au front pour répondre à vos besoins et trouver des solutions. Un message de l'Union des municipalités du Québec.
Boulevard.
Boulevard 102.1, là où ça compte.
5 à 4, les remparts avec 58 secondes.
Là où ça rock. Là où ça... Touchdown. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Je vous souhaite un excellent début de soirée. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Et ben non, c'est pas Max Larouche qui est là ce soir. C'est Tom Gauthier qui est en remplacement de Max Larouche pour la prochaine semaine. Je suis en renfort alors que Max Larouche se tape un doublé matin retour cette semaine. Ça me fait plaisir de vous accompagner. On va écouter de la belle musique ensemble pendant toute la semaine de 7h à 8h dans le volume automne, si on veut rappeler ça comme ça, pour cette semaine. Séquence rock tout de suite alors que Weezer sera dans vos oreilles avec Records, Modest Mouse avec Float on Green Day, qui est de retour avec un album qui va sortir en janvier prochain. On a deux extraits jusqu'à présent, et notamment la chanson The American Dream Is Killing Me, qui est excellente. Les Red Hot Chili Peppers vont être là avec Snow et les Black Keys avec Wild Child. Mais pour l'instant, Kurt Cobain et sa bande. On écoute Nirvana sur les ondes de Boulevard 102.1. Classique Heart Shape Box. Bonne soirée, bon lundi.
And around and again. across the coda. And even if the world is ending, as I go out, you'll hear me sing.
Across town, she's been searching for that song. 102.1. C'est une émission qui s'écoute le volume au max. Pas de questions? Parfait. Voici Max